France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Sacha Mattei. Je souhaite la bienvenue à Pénélope Lemoguen qui nous rejoint en stage jusqu'à la fin juin. Culture Monde est réalisé par Vivian Lecuivre et la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Nous consacrons cette nouvelle série au peuple kurde qui, partout où ils vivent, se trouve aujourd'hui sous la pression des États. Nous parlerons demain des Kurdes d'Iran, qui comptent parmi les moteurs des révoltes et donc aussi parmi les cibles de la répression. Mercredi, des Kurdes d'Irak autorisés à vendre à nouveau du pétrole. Jeudi, des Kurdes de Turquie. Ceux-ci délaissent la lutte armée pour des revendications plus culturelles. Aujourd'hui, les Kurdes de Syrie. L'accord conclu avec l'État central entre en vigueur ce lundi.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur de promulguer un décret spécial pour notre peuple kurde, garantissant ses droits et certains aspects de son identité au sein même de la loi. J'exhorte toutes les personnes déplacées de force à rentrer chez elles, saines et sauves, sans aucune condition que de déposer les armes.
Si le gouvernement a vraiment l'ambition de garantir l'égalité entre tous les citoyens, nous devons penser la Constitution pour qu'elle permette le vivre ensemble de tous les Syriens. Et surtout, les massacres doivent cesser. Un jour, Al-Shara signe un décret pour garantir nos droits, et le lendemain, il massacre notre peuple comme il l'a déjà fait avec les Druzes et les Alaouites.
Pour éviter la guerre civile et pour éviter des violences et des morts supplémentaires, tout particulièrement chez les civils, pour éviter que les massacres ne se multiplient et que les affrontements ne se généralisent, pour toutes ces raisons, nous, forces démocratiques syriennes, avons décidé de nous retirer des régions de Deir ez-Zor et Raqqa pour empêcher la guerre.
Depuis le début de l'année en Syrie, l'armée de Damas ne cessait de reprendre du territoire aux forces démocratiques syriennes, cette alliance de combattants à dominante kurde. Les hommes d'Ahmed al-Shara, le plus si nouveau que ça, président de la Syrie, depuis la chute de Bachar al-Assad, se sont d'abord dirigés vers Alep, près de la frontière turque, où ils ont repris le contrôle de quartiers à majorité kurde. Ils se sont ensuite élancés vers la partie du nord-est syrien administrée par le parti kurde du PYD, PYD. Sur les bords de l'Euphrate, de Raqqa à Deir ez-Zor, ces régions à dominante arabe ont vécu les mêmes scènes en janvier, des militaires accueillis en héros, des balles tirées en l'air, des accolades entre soldats et populations locales, des drapeaux syriens brandis fièrement, drapeaux qui avaient disparu depuis près de 10 ans de ces régions successivement contrôlées par l'État islamique puis par l'administration kurde, contestée par une partie des populations arabes. Les combats entre armées syriennes et forces kurdes ont laissé la place le 18 janvier à un accord en bonne et due forme, un accord confirmé vendredi et dont la mise en œuvre commence ce lundi de février. Le texte définit les modalités d'intégration des Kurdes à l'État central syrien. Alors, en est-ce fini des revendications autonomistes de partis kurdes comme le PYD? Comment celui-ci a-t-il négocié avec Al-Shara? Quelles sensibilités différentes coexistent chez les Kurdes de Syrie et qui définissent leur rapport à l'État central? Bonjour Gilles de Ronsoreau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez dirigé le gouvernement des Kurdes, gouvernement partisan et ordres sociaux alternatifs paru aux éditions Kartala. Nous sommes également avec Iris Lambert. Bonjour.
Bonjour Julie Gagou.
Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante aux séries de Sciences Po, journaliste indépendante. Vous venez juste de rentrer à Erbil, au Kurdistan irakien. Vous êtes rentrée hier soir après plusieurs jours dans le nord-est syrien. D'abord, Iris Lambert, à l'heure qu'il est, est-ce qu'on sait si l'accord formalisé vendredi, qui est censé entrer en vigueur aujourd'hui à la faveur d'un cessez-le-feu, est-ce qu'on sait si toutes les armes se sont tues aujourd'hui dans les villes et les régions où l'armée syrienne était entrée et où les forces kurdes opposaient encore une résistance?
Oui, alors il y a eu un premier cessez-le-feu de 4 jours il y a un peu plus de 2 semaines qui a été ensuite étendu pendant 15 jours. Pendant cette première partie-là, il y avait des affrontements qui continuaient de manière un peu sporadique le long des lignes de front. Et puis depuis l'accord, enfin voilà, le nouveau cessez-le-feu est un cessez-le-feu permanent qui doit être mis en application aujourd'hui. Au moment où on se parle, je crois qu'il y a une quinzaine de véhicules des forces de sécurité de Damas qui doivent entrer à Hasakeh. On a noté la présence des avions de la coalition internationale, aussi la mise en place d'un couvre-feu à Hasakeh pour permettre le déploiement de ces véhicules et l'entrée de ces forces dans un contexte calme, pas de débordement. Et puis hier également l'entrée du chef de la sécurité d'Alep à Kobané, une première, donc qui sont plutôt des signes positifs de la mise en place de ce cessez-le-feu.
Hasakeh et Kobané qui sont deux villes séparées par plusieurs centaines de kilomètres. Hasakeh est à l'est de la Syrie, pas très loin de l'Irak. Kobané, vraiment à la frontière turque. Quels échos en avez-vous, Gilles de Ronceau, quant à vous aujourd'hui, de ces villes où l'armée syrienne avait fait des progressions, ces villes ou ces régions, sachant que pour l'instant, en janvier, ce qui s'est passé, c'est de l'ordre de deux choses. Il y a à la fois des, entre guillemets, victoires ou des reprises de l'armée syrienne, mais aussi certaines villes ou territoires qui, entre guillemets, s'effondrent de l'intérieur, ou l'administration kurde s'effondre de l'intérieur.
Je crois qu'il y a plusieurs situations assez distinctes. La première, c'est les provinces arabes qui Raqqa, Deir ez-Zor, qui elles sont tombées, j'allais dire, parce qu'elles étaient minées de l'intérieur. C'est-à-dire que les forces kurdes qui dominent les FDS s'étaient vidées de leurs combattants arabes, et donc il y a eu un effondrement. Donc il y a eu un retrait précipité des forces kurdes qui pouvaient plus contrôler les régions arabes. Vous avez un deuxième cas de figure assez net, c'est celui de Alep, où le quartier Sher Masoud, dont le quartier qui est kurde, s'est retrouvé isolé, sous blocus, et donc à un moment donné, il a été plus simple d'avoir une évacuation, avec d'ailleurs un certain nombre de civils qui sont partis et en partie revenus. Et puis vous avez aussi plus dans le nord une série de zones de conflits dans des zones qui étaient plutôt kurdes. Donc on a en fait un effondrement de toute l'autonomie kurde qui avait été construite avec l'appui américain à partir de 2014. Donc c'est, et j'en profite pour le dire, c'est un moment historique parce que à partir d'aujourd'hui, je pense, si les accords tiennent, on peut dire que le PKK, qui est en fait la structure dominante au sein des régions qui étaient dominées par les Kurdes, le PKK n'a plus de branche militaire très effective. C'est la fin d'un cycle qui a duré 45 ans, puisque la formation du PKK, c'est fin 78. Donc, vous voyez, c'est vraiment une date historique.
Quand vous dites le PKK, vous parlez en l'occurrence de, entre guillemets, la branche syrienne du PKK, qui est le PYD ou le PYD.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a à partir du moment où il y a eu un retour du PKK en Syrie en 2012, suite à un accord avec le régime de Bachar el-Assad, qui voulait diviser l'opposition, les forces qui voulaient le renverser dans le nord, on a plusieurs appellations. Donc vous avez les forces démocratiques syriennes, vous avez le PYD, etc. Mais les vrais cadres politiques, les cadres du PKK, qu'on appelle des cadros précisément, étaient vraiment et restent la structure dominante. Et aujourd'hui, à Kobané, on a essentiellement, d'ailleurs, des combattants du PKK, donc pas forcément des Syriens.
Donc la légitimité de ceux qui, parmi les Kurdes, présidaient aux destinées de plusieurs parties du territoire syrien, que ce soit donc le PYD, PYD créé par les Kurdes syriens du PKK en 2003, que ce soit cette administration autonome du nord-est syrien, leur légitimité était contestée, d'où les scènes de joie qu'on a pu voir dans des parties du pays à dominante arabe, mais administrée par les Kurdes, quand l'armée syrienne est arrivée.
Dieu merci, nous sommes débarrassés des forces kurdes et de leurs problèmes qui s'abattaient sur la population. Dieu merci, l'armée a entièrement nettoyé Sher Masoud et Achrafieh. C'est une immense joie pour Alep.
Pour la première fois depuis 14 ans, Deir ez-Zor retrouve sa souveraineté. La ville rentre dans le giron de la Syrie et ses richesses reviennent au peuple syrien tout entier. La nuit dernière, les jeunes des tribus se sont soulevés contre l'administration kurde, tout comme les habitants de la proche campagne à l'ouest de la ville qui ont réussi à faire fuir les FDS par eux-mêmes.
Alors que ce soit à Deir-ez-Zor où ce témoignage a été recueilli par un média qui s'appelle Vertex ou à Alep par Le Monde un peu plus tôt, mais à Deir-ez-Zor comme à Raqqa, Iris Lambert, pourquoi l'administration kurde était-elle contestée à ce point jusqu'à ce qu'on voit en effet ces scènes de joie et ces drapeaux syriens sortir des fenêtres et dans les rues?
Alors je pense qu'il faut d'abord peut-être replacer le contexte de la création de l'administration autonome, comme le mentionnait Gilles de Ronsoro. En fait, ces territoires, ils vont être administrés par les Kurdes à la faveur des soulèvements révolutionnaires en 2012, et donc un accord passé avec Bachar al-Assad, ce qui passe très très mal pour les révolutionnaires, évidemment. Et puis ensuite, à la faveur des offensives contre l'État islamique, avec l'appui américain qui s'accompagne malheureusement de nombreux morts dans les populations arabes, à Raqqa notamment, qui a été littéralement pilonné par la coalition internationale. Et puis voilà, donc ces territoires qui sont peu à peu repris et qui vont être le socle de l'administration autonome, ils vont à la fois permettre à cette administration de faire avancer les droits culturels, politiques kurdes avec une auto-administration, la promotion de la langue, de la culture et de l'identité kurde qui est très très importante pour ces populations qui ont été marginalisées pendant des années. Des décennies par le pouvoir baasiste, mais il va aussi s'accompagner par la mise en place d'un pouvoir en fait très vertical et autoritaire, souvent oppressif, et notamment vis-à-vis des opposants, que ce soit les opposants kurdes, l'opposition politique qui va être criminalisée pendant un temps, et puis les populations arabes qui vont être aussi instrumentalisées autour de la menace de l'État islamique. Et donc, ce qu'on a noté, et ça c'est des choses qui ont été documentées en fait depuis des années, qui ressurgissent aujourd'hui puisque les territoires sont repris, mais une absence de biens et de services, notamment voilà effectivement dans la province, enfin du côté de Deir-ez-Zor, pas d'électricité, pas d'eau, un sentiment d'occupation militaire davantage qu'une d'une gouvernance politique, des arrestations sommaires, des tortures, l'incarcération de mineurs dans les prisons et une répression de toute possibilité de contestation et de critique et aussi depuis un an, depuis la chute de Bachar al-Assad, toute expression d'un soutien au gouvernement de Damas était très très fortement réprimée avec des couvre-feux aussi ces derniers temps dans les villages à majorité arabe. Donc effectivement, ces populations-là se sont réjouies du retrait des forces kurdes ces dernières semaines.
Voilà, vous faites très bien de rappeler l'un et l'autre, puisqu'on inscrit cette discussion dans le cadre des relations entre les Kurdes et l'État central, et qu'il y a toute une histoire à retracer, et que les Kurdes ont d'un côté été victimes de discrimination par le pouvoir baasiste, que ce soit al-Assad père ou fils, mais que quand en 2012 Bachar al-Assad a laissé le PYD prendre le contrôle de cette région autour d'Alep en 2012, le parti kurde a décidé de ne pas prendre part à la révolution syrienne, de tirer parti de la situation pour s'offrir une assise territoriale. Gilles de Ronsoro, est-ce que néanmoins cette distance qui s'est creusée entre l'administration kurde et les administrés, est-ce qu'elle est plus récente que ça?
Je crois qu'il y a, d'abord, il faut voir qu'on est dans une situation de guerre civile où aucun dirigeant, aucun groupe dominant n'est sympathique, mais il y en a qui sont pires que d'autres. Donc, je pense qu'à la fois, les gens dans les populations arabes sont soulagés d'être débarrassés du PKK ou du PYD. À la fois, ça ne veut pas dire que quand il y avait l'alternative était Bachar el-Assad, ils auraient préféré Bachar el-Assad. Donc, je crois qu'on est toujours dans des choses comparatistes. Et aujourd'hui, ils préfèrent rallier...
Et très compliqué, d'ailleurs. Tous les Arabes ne sont pas contre les Kurdes,
c'est ça.
Etc.
En plus, c'est compliqué. Et tous les Kurdes, d'ailleurs, sont pas pro-PKK ou pro-PYD, loin de là. Il y a eu, faut le rappeler, en 2012, beaucoup de Kurdes qui étaient à titre individuel ou même d'ailleurs dans des groupes qui soutenaient la révolution. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce que montre cet effondrement de la gouvernance kurde des Arabes, c'est aussi l'échec de la mue idéologique du PKK qui a commencé au début des années 2000. C'est concrétisé surtout en 2004, l'abandon du marxisme-léninisme, l'abandon de l'indépendance comme but. Et on se rend compte que le PKK est resté un parti ethno-nationaliste. C'est-à-dire qu'il a été incapable d'intégrer des Arabes sur un pied d'égalité, ce qui aurait effectivement pu présenter un modèle de gouvernement alternatif en Syrie, c'est-à-dire une gouvernance véritablement ouverte où les Arabes, les Kurdes auraient pu vivre en bonne intelligence. Et ce logiciel qui reste très léniniste et très ethno-national, finalement, ça a conduit, je pense, ça a été une des causes majeures de l'effondrement du PKK aujourd'hui.
Et Ahmed Al-Shara sait combien aujourd'hui les populations kurdes sont divisées en Syrie. Et d'ailleurs, il a appelé le 15 janvier dernier, il appelait justement toutes ces dissensions à se lisser un petit peu. Il promettait une intégration pacifique assortie de droits aux Kurdes, à condition en effet que tout le monde y trouve son compte.
Avant d'arriver à un accord, les discussions avec les forces démocratiques syriennes ont commencé un mois et demi seulement après notre prise de pouvoir à Damas. Peut-être même un peu plus tôt encore. À cette occasion, j'ai pu rencontrer M. Mazloum Abdi et je me souviens de ce que je lui ai dit dès cette première réunion. Je lui ai dit, Monsieur Abdi, si vous vous battez pour que les Kurdes aient des droits dans la Syrie nouvelle, alors dans ce cas, vous n'avez pas besoin de verser la moindre goutte de sang. Car les droits nationaux des Kurdes seront préservés et seront garantis par la constitution syrienne. Leur droit à la citoyenneté, leur intégration parmi les cadres officiers de l'armée, toutes ces choses sont fondamentales. Il est indéniable que les Kurdes ont participé à la révolution avec nous et même qu'on leur doive une partie de celle-ci. Mais cela appartient aux Kurdes, pas aux forces démocratiques syriennes. Je conteste l'idée que la composante kurde en Syrie puisse être représentée par les seuls FDS. Il y a beaucoup de points de vue divergents au sein des Kurdes.
Ahmed Al-Shara, le président syrien, le 15 janvier dernier, quand il parle de Mazloum Abdi, c'est le chef des forces démocratiques syriennes, donc ces combattants à dominante kurde, mais avec également des milices arabes. Gilles de Ronsoro, comment entendre ce discours d'Ahmed Al-Shara qui dit d'ailleurs aux Kurdes, vous vous êtes battus avec nous, la révolution syrienne, c'est aussi vous, on peut se parler. Est-ce qu'il y a une part de démagogie? Est-ce que, comment comprendre que Al-Shara se soit autant acharné à trouver un accord avec les Kurdes ou vice-versa d'ailleurs?
Alors je crois que il y a d'abord l'extrême habileté de Shara dans ses discours publics, chose absolument fascinante hein, pour quelqu'un qui finalement vient de l'État islamique, enfin vient des mouvements les plus radicaux. Alors il met le point sur ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que beaucoup de Kurdes à titre individuel ont participé à la révolution et que donc tous n'étaient pas pour une politique autonomiste ou indépendantiste. Certains voulaient participer au mouvement national de révolution, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, quand il parle de droits des Kurdes, la tension qu'on a aujourd'hui, c'est entre les droits individuels et collectifs. Je ne pense pas que Shara, qui n'est pas un nationaliste arabe, hein, il faut saluer quand même la chute des régimes basses, qui sont quand même les pires régimes au monde, c'est pas un nationaliste arabe. Donc à titre individuel, la reconnaissance des droits des Kurdes, déjà l'accès à la citoyenneté, puisque beaucoup avaient été exclus par les régimes bassistes en Syrie. Tout ça, ça paraît pas quelque chose d'extraordinairement conflictuel. Là où on a un élément de tension très fort, c'est l'autonomie, tous les projets de cantonisation éventuellement de la Syrie, c'est-à-dire une partie pour les Alaouites, une partie pour les Kurdes, etc. Ça, c'est la ligne rouge pour Shara. Shara ne veut pas qu'on ait en fait des territoires administrés par des gouvernements locaux. Donc il refuse le modèle, en fait, le modèle irakien, qui était probablement la demande ultime des négociateurs kurdes, c'est-à-dire éventuellement sous protection internationale, avec une zone d'exclusion aérienne, etc. Ça, pour lui, c'est la ligne rouge, parce qu'il veut reconstituer un État syrien unitaire qui est effectivement plutôt la tradition syrienne et qui, effectivement, peut éviter le retour à une guerre civile. Donc je crois que la tension, quand il parle de droit collectif, la tension, elle est là. Et pour le moment, il a plutôt gagné parce qu'il semblerait pas... Enfin, même s'il y a 4 divisions théoriquement kurdes qui resteraient dans le nord-est, il semblerait pas que les Kurdes soient amené à avoir une armée, j'allais dire, enfin des forces militaires suffisantes pour s'imposer, un peu comme le Hezbollah l'a fait au Liban, par exemple, avec les résultats qu'on connaît.
Alors, c'est un des enjeux aujourd'hui, l'intégration des combattants kurdes dans l'armée syrienne, disons, régulière, qui est aujourd'hui composée d'ailleurs en majorité de combattants HTS, donc la formation islamiste ex-djihadiste dont est issu Al-Shara, des milices pro-turques également, qui ont été très violentes avec les Kurdes, qui les ont chassés de la ville d'Afrin notamment. Donc comment ces combattants kurdes vont-ils intégrer l'armée syrienne? Qu'est-ce qu'on sait, Iris Lambert, de l'accord qui a été annoncé alors vendredi par les autorités autorités syriennes, alors que on pensait qu'ils avaient trouvé un accord le 18 janvier, donc c'est un petit peu flou. Qu'est-ce que cette annonce apporte de plus? Est-ce qu'on commence à savoir un petit peu ce qui se dit dans cet accord qui a été conclu entre le gouvernement syrien, en l'occurrence le président syrien Al-Shara, et les forces kurdes?
Oui, en fait, au fur et à mesure des négociations, il y a surtout eu un va-et-vient sur un point précis, à savoir l'intégration donc des SDF, hein, des forces pro-kurdes de l'administration autonome. Et la question, c'était de savoir s'ils allaient pouvoir être intégrés de manière individuelle, ce que voulait Shara dès le début, ou plutôt en brigade ou en division, ce que demandait Mazoum Abdi. Et dans la dernière version de l'accord, qui est donc celui de vendredi, il est question d'intégrer les SDF en 3 brigades dans la province de Hasaké et d'avoir une brigade à Kobané qui serait rattachée aux divisions d'Alep. Mais la subtilité, c'est que ces 4 brigades au total, elles seraient formées par une intégration individuelle, ce qui permet en fait à Damas de faire une sorte de screening, de pouvoir observer qui sont les individus qui seront intégrés et de vérifier leurs liens avec soit que ce soit le PKK ou de vérifier de manière sécuritaire qui ils sont et de s'assurer qu'il y ait pas de problème en interne derrière. Donc pour l'instant c'est comme ça que ça a été acquis sur la dernière version du
texte de vendredi, Gilles de Ronsoro.
Alors oui, alors je pense que le screening, en fait, ça...
Qu'est-ce que c'est le screening?
Ah pardon, le contrôle des candidatures, des soldats, etc., pour en éliminer certains. Ça vise une catégorie très spécifique, c'est les cadres turcs du PKK qui formaient un élément central de la structure du parti kurde en Syrie. C'est eux qu'on veut éliminer. Donc tous les gens, en fait, qui sont plutôt turcophones que arabophones, et voilà. Bon, c'est eux le problème. Pourquoi ? Parce que si on les élimine, ça veut dire qu'on peut avoir aussi une autonomisation sous la direction de Mazloun, par exemple, du parti kurde par rapport à la direction historique du PKK qui est basée à Kandil. Et ça, c'est un enjeu. On sait qu'il y a des tensions fortes entre les militants vraiment qui sont basés en Syrie et la direction historique. Et probablement, ce que veut Shara, c'est expulser les cadres turcs pour avoir vraiment des Kurdes qui soient des Kurdes syriens. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que historiquement, on sait. Tous les cas de sortie de guerre civile montrent qu'il est impossible de fusionner des armées. C'est quasiment impossible. Donc en fait, je pense que Shara va manœuvrer progressivement pour étouffer cette idée de force kurde autonome. Je pense que c'est la ligne. Enfin, en tout cas, c'est la très grande probabilité. Il y a probablement plus de chances d'avoir, de manière un peu soit légalement affirmée, soit comme pratique, d'avoir un gouverneur kurde à Hasaké. Ça, c'est quelque chose qui me paraît plus jouable.
Pourquoi ? Parce qu'Hasaké est plus proche de...
Non, parce que c'est un gouverneur, donc s'il n'y a pas de force, il n'y a pas de dimension militaire. Je pense que l'obsession de Shara, qui a survécu miraculeusement à une guerre civile extrêmement brutale, a une obsession, comme toutes les sorties de guerre civile, c'est que ça ne recommence pas. Et donc, du coup, il ne faut absolument pas qu'il y ait de forces capables de s'opposer. Et en plus, je pense que c'est une demande essentielle des Turcs, de la Turquie, qui est un peu le protecteur du régime en ce moment.
Il est prévu que les centres de réconciliation qui avaient été créés pour les anciens soldats du régime d'Assad, pour qu'ils intègrent cette nouvelle armée syrienne, que ces centres de réconciliation bénéficient aussi ou soient ouverts aux combattants kurdes. Iris Lambert, est-ce que cet accord vaut aussi dissolution de l'administration autonome du nord-est syrien? Cette fois, on parle au point de vue administratif, donc cette autorité qui administre donc depuis 10 ans les régions de Raqqa, de Deir ez-Zor et depuis plus longtemps encore les 3 cantons du Rojava, donc depuis 2012. Est-ce que on parle de dissolution de cette autorité ou est-ce que le président Al-Shara va devoir composer aussi avec ceux et celles qui étaient en place, qui connaissent très bien la région, qui en connaissent les arcanes?
Là, on touche vraiment à toutes les subtilités de cet accord et à vraiment aux points aveugles de cet accord. Pour l'instant, on ne parle pas de dissolution de la même manière que, et je pense que c'est important de le souligner, le mot de dissolution des SDF, donc là de la branche militaire, n'a pas été mis sur la table. Donc, en vrai, il y a vraiment cette question de l'intégration et donc l'intégration des institutions de l'administration autonome au sein de l'État central syrien. Alors après, voilà, la question c'est quels sont les par quels mécanismes. Typiquement, il est question que le système de co-gouvernance paritaire qui était instauré sur ces territoires-là, donc avec un homme et une femme à chaque position administrative, puisse être maintenu. Et puis, avec une reconnaissance, par exemple, des diplômes délivrés par l'administration autonome, une reconnaissance de ces diplômes par Damas, ce qui n'était pas le cas et ce qui était un des enjeux principaux des négociations. Mais ensuite, les véritables mécanismes de mise en place de cette intégration restent très flous et c'est probablement ça qui inquiète aujourd'hui.
Et sur le volet militaire, Iris Lambert, on parle de combien d'hommes aujourd'hui au sein des FDS, donc à majorité kurde. Quand on parle de ces combattants kurdes qui vont rejoindre l'armée, on parle de combien d'hommes et de femmes, parce qu'il y a des unités de protection des femmes, mais pour l'instant, je crois que leur sort n'est pas encore scellé.
Alors, donc les SDF qui regroupaient à la fois des combattants kurdes et des combattants arabes ont perdu à peu près 60% de leur contingent au moment de la reprise des différents territoires avec les défections massives des SDF arabes. Aujourd'hui, les combattants kurdes et ceux qui devraient être intégrés dans ces quatre brigades, on parle de 22 000 personnes à peu près. Et a priori, il serait, les contingents de femmes pourraient être intégrés au sein de ces brigades.
Exclusivement donc composés de combattantes. Gilles de Ronsoreau, 20 000 à peu près combattants. Je crois que même Mazloum Abdi l'a dit lui-même, donc le chef de CFDS, alors qu'on parlait à un moment de 60 000 hommes, parfois 100 000 hommes, c'est ce qu'on lit. De quoi changer le rapport de force si aujourd'hui les FDS ont perdu 60% de leur contingent? Ça change le rapport de force avec l'État central ou ça n'est plus la question?
Oui, par exemple, à Kobané aujourd'hui, il y aurait à peu près 2 500 à 3 000 combattants kurdes, plus professionnalisés probablement. Donc ça reste des forces capables de créer de nouveaux combats, une situation d'instabilité. Après, je pense que le rapport de force global, l'absence de soutien notamment de forces étrangères aux forces kurdes, fait que ça peut pas aller très loin. En tout cas, ça peut pas relancer probablement une guerre civile. On sait que Israël, par exemple, un temps avait envisagé un soutien aux Kurdes dans une politique générale de dissolution de l'État syrien. Ils ont réussi jusqu'à un certain point à s'imposer comme protecteurs des Druzes, mais je pense que là, il y a eu un veto, en tout cas pour ce qui est des Kurdes, il y a eu un veto américain qui cherche vraiment à renforcer le pouvoir de Damas pour une raison simple, c'est que les Américains, à terme, veulent partir tout en ayant un régime suffisamment stable pour assurer que l'État islamique ne va pas ressurgir en force dans 2-3 ans.
D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, Iris Lambert, vous avez beaucoup travaillé avec votre consoeur d'ailleurs, Marion Chaplin, dans des camps, on vous avait reçu dans Culture Monde pour en parler, dans les camps de prisonniers de l'État islamique qui étaient donc surveillés, gérés par les Kurdes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a entendu dans le journal de 8h ce matin sur France Culture parler de ces transferts de combattants de l'État islamique? Aujourd'hui, est-ce que c'est à la faveur de cet accord, c'est l'État central syrien qui va s'en occuper? Est-ce que c'était une demande des Kurdes ou surtout de l'État central syrien? Est-ce que vous avez des informations sur les premiers transferts vers l'Irak? Enfin, qu'est-ce que cet accord change aujourd'hui?
Oui, alors les transferts ont débuté. On parle, je crois, à ce stade d'environ 900 détenus qui auraient été transférés vers les prisons irakiennes. Pour l'instant, dans la version de l'accord de vendredi, il est question que le contrôle des prisons de l'État islamique soit toujours sous les SDF, tant que l'évacuation vers l'Irak n'est pas terminée. Le camp de Rojh, qui est un camp situé dans le nord-est syrien, est toujours sous administration SDF. C'est dans ce camp que se trouvent notamment les femmes et les enfants des djihadistes, et notamment étrangers, ce qui va poser une question importante de rapatriement, tandis que, à la faveur de cette offensive lancée le 18 janvier, le camp d'Al-Hol, lui, est passé sous contrôle de Damas.
Est-ce que les États-Unis aident maintenant directement l'État syrien, Gilles de Ronsoreau, pour la gestion des camps djihadistes? Est-ce qu'ils versent l'argent à Damas plutôt qu'aux autorités kurdes? Il faut rappeler d'ailleurs que cette alliance entre les États-Unis et les autorités kurdes était plutôt contre nature, étant donné les penchants politiques du pays grec.
Oui, c'est la grande comparaison entre HTS, donc le mouvement dont est issu Chara et
islamiste.
Et oui, islamiste et le PKK, c'est qu'à peu près au même moment, autour de 2014-2015, les deux ont été obligés de faire alliance, des alliances contre nature pour survivre simplement face à la progression du régime de Bachar el-Assad. HTS a fait alliance avec les Turcs, ce qui est véritablement contre nature, et évidemment le PKK a fait alliance avec les États-Unis, alors que c'est un mouvement qui était plutôt dans la logique anti-impérialiste, etc. Visiblement, la politique américaine, ça a été de changer de cheval, donc ils comptent maintenant sur Chara pour lutter contre l'État islamique. Alors, il y a une raison assez logique à ça, c'est que d'abord ils sentent le vent tourner et que les rapports de force sont clairement au bénéfice de Chara. Et deuxièmement, c'est la collaboration sécuritaire entre Chara et les pays occidentaux ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'une dizaine d'années. Donc ça fait 10 ans que Chara aide les occidentaux à lutter contre l'État islamique, à liquider des membres de l'État islamique par des attaques de drones, etc. Donc en fait c'est une vieille collaboration qui maintenant prend un tour plus officiel.
Même s'il est observé néanmoins de loin, et notamment après les massacres de l'armée syrienne chez les Druzes à Souaïda, dont vous avez reparlé, dans l'arrière-pays côtier chez les Alaouites par ailleurs, pour l'instant ça ne semble pas avoir remis en cause la confiance qu'Al-Shara a obtenue de ses partenaires étrangers, mais c'est un précédent que ne cesse de rappeler Mazloum Abdi, le leader, donc le chef des forces démocratiques syriennes.
Les massacres qui ont eu lieu dans l'arrière-pays côtier en mars et qui se sont répétés à Souaïda cet été nourrissent les craintes du peuple kurde ainsi que celles d'autres minorités vivant en Syrie. La répétition de ces massacres a contribué à nous faire hésiter pour la signature d'un accord. Nous n'avions aucune garantie que de nouvelles attaques n'aient lieu et ne soient tournées vers nous cette fois-ci. C'est l'une des raisons qui nous a poussé à retarder l'application pratique de l'accord trouvé le 10 mars dernier.
Cet entretien de Mazloum Abdi à la Society Press date du mois d'octobre. Est-ce que depuis, Gilles de Ronsoro, Mazloum Abdi et d'autres forces kurdes derrière lui ont obtenu davantage de garanties de la part du président syrien ?
Alors, de garanties, bon, c'est toujours difficile à savoir. En tout cas, d'après les observateurs du processus de négociation, en fait, les Kurdes ont obtenu moins aujourd'hui qu'ils auraient pu obtenir peut-être en novembre ou décembre. Voilà. Il y a eu en fait, Chara était prêt à lâcher au moins après on ne sait pas pour l'avenir, mais en tout cas sur un accord, il était prêt à lâcher plus finalement. Et c'est devant la résistance, la stratégie un peu entêtée des négociateurs kurdes, qu'il a choisi une option plus militaire en déstabilisant les régions arabes sous domination kurde. Donc on peut dire que oui, il y a cette peur de ce qui s'est passé chez les Druzes et les Alaouites, mais la situation est un peu différente. Alors, en tout cas, Chara semble avoir compris que ce qui s'est passé notamment avec les Druzes avait eu pour effet, une impopularité maximale de son régime dans ces régions, mais surtout une intervention extérieure. Dans ce cas-là, une intervention israélienne. Et probablement l'idée que des massacres de Kurdes puissent amener une intervention, en tout cas des pressions assez fortes des Français, mais surtout des États-Unis, est un facteur de modération. Il ne faut pas oublier que le régime actuel sort à peine des sanctions internationales. Il n'y a pas d'État syrien. L'État syrien est en voie de reconstitution. Et le scénario qui s'est passé avec les Druzes, notamment, c'est-à-dire l'autonomisation des auxiliaires tribaux du régime dans les massacres de Druzes qui ont fait plus de 2000 morts, plutôt 3000, ou alors du côté des Alaouites, c'est un scénario qui est catastrophique pour Chara. Donc, dans l'idée de conforter sa stature internationale, il a plutôt intérêt à ce que ça se passe bien.
Alors cet accord, et pour l'instant donc ça a l'air de se passer bien entre guillemets, puisque cet accord a été annoncé vendredi, que pour l'instant le cessez-le-feu, bon, qui commence juste après Iris Lambert nous rappelait un précédent cessez-le-feu de quelques jours il y a 2 semaines, pour l'instant les choses se passent dans le calme manifestement. Alors cet accord, on a évoqué le volet militaire, le volet politique ou administratif de l'accord annoncé vendredi. Ce texte reconnaît aussi par décret les droits nationaux des Kurdes. Alors c'est peut-être ce texte ou précédemment, mais en tout cas il est question de reconnaître les droits nationaux des Kurdes, dont la langue par exemple sera désormais officielle, enseignée dans les écoles par ailleurs. La fête de Nowruz, la fête persane que célèbrent les Kurdes, leur nouvel an, sera un jour férié officiel. Et c'est ce texte qui accorde la nationalité syrienne aux Kurdes, 20% en avait été privé à la suite d'un recensement au début des années 60. Pourquoi, Iris Lambert, comment comprendre le décalage qu'il y a et qu'on a senti affleurer dans vos réponses depuis le début de cette émission, à la fois ces années de discrimination par l'État syrien de la population kurde, mais aussi les accords ou les non-dits, enfin tout ce qui s'est passé à partir de 2012, Bachar al-Assad qui laisse les Kurdes gérer notamment le nord-est du pays.
Alors, enfin, l'enjeu en ce moment, c'est que il y a à la fois, voilà, tous ces gages du côté de Damas sur la reconnaissance des droits politiques, des droits culturels, voilà, ce que vous avez mentionné sur l'octroi de la nationalité à des milliers de Kurdes qui en avaient été déchus au fur et à mesure des années. Le problème principal, c'est que ce que demandent les Kurdes, c'est que ces dimensions là soit intégrée dans la constitution. En fait, la crainte, c'est que voilà, Ahmad al-Sharaa ne va pas rester au pouvoir. Enfin, on ne sait pas exactement combien de temps aujourd'hui, mais en tout cas, il n'est pas éternel. Et la crainte, c'est que sans inscription dans la constitution, il puisse y avoir par la suite des régressions. Et ces régressions, elles sont, enfin, cette crainte des régressions, elle s'inscrit aussi, voilà, dans cette défiance qu'il y a vis-à-vis de l'État central. Puisque effectivement, l'accord qui a été signé vendredi n'est pas le premier accord. Il y a déjà eu des accords qui ont été rompus avec une reprise des hostilités. Évidemment, une méfiance des populations vis-à-vis de la possibilité d'exactions qui ont été aussi documentées. Voilà. Donc, en fait, il y a à la fois des avancées, des garanties, mais le tout à comprendre dans un climat, oui, de méfiance et de méfiance mutuelle très, très exacerbée.
Gilles Dronceau.
Oui, ce que je trouve c'est intéressant d'un point de vue plus historique, c'est de voir que Irak, Turquie, Syrie, dans ces trois pays, on a eu pendant des décennies des régimes qui ont soit nié l'identité kurde, soit privé les Kurdes de nationalité, soit procédé à des massacres de masse absolument spectaculaires. On a tout ça. Et la situation a fondamentalement changé à partir des années 90. Donc aujourd'hui, et Dieu sait que la Turquie n'est pas exactement un régime libéral, mais l'existence des Kurdes, la langue kurde n'est plus remise en question. Même chose en Irak, où finalement, il y a eu une autonomisation des Kurdes. Et en Syrie, on va vers le même processus. Donc je pense que c'est pas les inquiétudes fondamentales ne sont probablement pas là. Il me semble qu'il y a un premier problème qui est l'existence de milices créées par la Turquie dans le nord, qui ont été ces dernières années extrêmement violentes. Et là, on a des possibilités de dérapage, des possibilités soit de massacre, soit plus probablement de marginalisation de la population kurde à un niveau local. Ça ne se passera pas dans les quartiers kurdes d'Alep, ça se passera plutôt dans les petits villages, etc. La deuxième chose, c'est la question des réfugiés, parce que quand la Turquie, aidée par ces milices dont je parlais, mais c'est essentiellement les forces turques, ont liquidé la présence kurde à Afrin, donc sur leur frontière, de manière des opérations militaires efficaces et rapides, la population kurde est largement partie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces réfugiés kurdes? Est-ce qu'ils sont autorisés à revenir? Encore une fois, si c'est Alep, oui, ils vont revenir dans leur quartier. C'est pas du tout sûr que la même chose se passe dans des zones frontalières. Et là, c'est vraiment la politique turque qui risque de faire la différence.
Le retour des déplacés est-il d'ores et déjà possible? C'est vrai qu'on entendait au tout début de l'émission al-Sharaa dire « Je vous exhorte à rentrer chez vous. Maintenant, les territoires sont pacifiés. Vous pouvez rentrer avec toutes les réserves que vous avez émises l'un et l'autre. Il faut aussi rappeler que quand on parle des Kurdes de Syrie, on parle de 2 millions de personnes sur une population syrienne de 20 millions. Et ces Kurdes ne sont pas seulement dans le nord-est, même s'ils y sont nombreux. On les retrouve à Damas, à Alep, d'autres villes ou régions de Syrie. Peut-être pour conclure sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait qu'on parle très régulièrement des Kurdes de Syrie, alors qu'ils n'ont pas tous les mêmes sensibilités politiques, la même façon voir la manière dont ils souhaiteraient être intégrés à un État central syrien. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour conclure, Gilles de Ronsoro, quand on dit par exemple des Kurdes qui sont plus ou moins conservateurs par rapport au pays YD, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que historiquement, le mouvement kurde syrien était plus proche du leader historique du mouvement kurde, qui est Barzani. Hein. Et on
en
voit
Irak.
D'ailleurs que irakien. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Massoud Barzani cherche effectivement à se poser un peu comme protecteur, représentant des Kurdes syriens. Ce qui est une façon, effectivement, de marginaliser le PKK, qui est son ennemi historique. Donc, probablement, on aura à terme, et là, je pense qu'il y aura, une possibilité que Chara intègre des notables kurdes dans un système clientéliste qui est en train de se mettre en place, puisque la Syrie n'est pas partie pour devenir un État démocratique, mais ça peut être un régime autoritaire relativement souple, on verra. Et ça, je pense que ça montre aussi qu'à terme, je ne suis pas sûr que le nationalisme kurde façon PKK soit forcément l'avenir pour les Kurdes de Syrie.
Et c'est ce sujet que nous allons creuser dans le focus dans un instant, juste après cette chanteuse kurde, Mufid Hemdi, et l'une de ses dernières chansons qui veut dire « Le vendeur de fleurs ». Chanteuse kurde Mufid Hemdi et ce titre Le vendeur de fleurs qui date de l'année dernière. Vous écoutez Culture Monde, c'est le premier épisode d'une série sur les Kurdes face aux États aujourd'hui en Syrie, où l'accord trouvé entre les responsables kurdes et le président Ahmed al-Shara entre en vigueur aujourd'hui. Le PYD est le parti kurde qui a dominé le nord et le nord-est de la Syrie pendant 10 ans. Il ne représente pas tous les Kurdes de Syrie. Alors que va faire au PYD l'intégration des Kurdes à l'État syrien? C'est notre focus.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Comment le PYD décompose avec la fin de son monopole politique sur le Kurdistan syrien? Bonjour Cédric Labrousse.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant à l'EHESS. Vous avez beaucoup suivi ces derniers mois, tout ce qui s'est passé autour de ce parti, le PYD. Quelle place a-t-il prise d'ailleurs pendant les négociations avec al-Shara? Est-ce qu'il est juste de dire que c'est lui qui a vraiment négocié directement avec le président syrien?
Oui, alors bonjour, et je m'inscris dans la suite des propos des intervenants précédents. Il faut bien comprendre que ce que l'on a appelé dans le nord-est syrien, on peut parler au passé désormais, l'administration autonome du nord-est syrien, était en réalité une construction institutionnelle, administrative, mais principalement centrée sur le PYD, hein, c'est-à-dire cette branche régionale du PKK installée en Syrie à partir de 2003. Et donc, en effet, après un accord plus ou moins tacite avec le gouvernement de Bachar al-Assad, le PYD avait établi cette administration. Alors, par le fait, le truchement de petits partis politiques, parfois très liés d'ailleurs au PYD, parfois en réalité des organisations politiques de façade, afin de créer une diversité politique qui le soutiendrait, eh bien, c'est le PYD qui dirigeait l'administration autonome du nord-est syrien. Et c'est donc, en effet, le PYD qui s'est retrouvé principalement à la table des négociations qui sont encore en cours. On a certes un accord, mais il reste, et ça a été dit dans l'émission, beaucoup de choses à régler. Donc, en effet, c'est ce parti-là qui s'est retrouvé à la table des négociations. Après, il ne faut pas oublier qu'au sein de ce parti, il y a différentes nuances. Et c'est davantage la nuance modérée, celle qui est capable de dialoguer notamment avec les Américains depuis plusieurs années, et notamment désormais avec l'autorité centrale à Damas, d'Al-Sharaa. C'est cette branche modérée qui a mené notamment les négociations. En cela, ce sont bien des gens qui parfois ont pu passer dans les rangs du PKK, et ça a été rappelé dans l'émission, mais qui ont une posture d'ouverture au dialogue, et vous avez notamment nommé Mazloum Abdi. Et donc, le PYD aujourd'hui fait face à une grande difficulté, c'est-à-dire à la fois accepter la mort du modèle administratif et institutionnel qu'il avait créé, et se retrouver lui-même l'un des responsables funéraires, si je puis dire, de son propre projet. Oui.
Est-ce que le parti s'est posé en représentant de tous les Kurdes de Syrie pendant les discussions, ou uniquement de ceux qui lui sont fidèles, plutôt les partisans de gauche du Rojava? Vous aviez noté, Cédric Labrousse, par exemple, vous l'avez beaucoup suivi tout ça sur vos réseaux sociaux, que le PYD ne mettait plus en avant le drapeau du Rojava, mais le drapeau kurde. Ça n'était pas le cas ces dernières années?
Non, tout à fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, le drapeau national kurde syrien n'était pas interdit, mais il était très clairement devenu extrêmement marginalisé et marginal, notamment du fait de la politique par le PYD, de l'installation de toute sa symbolique, de tous ses symboles, notamment le fameux drapeau du Rojava, avec ses bandes horizontales. Mais les événements récents ont transformé, par le fait des événements qui s'accumulaient très rapidement, le PYD en une sorte de porte-drapeau de la question kurde. En effet, c'est un rattrapage bien tardif. Le PYD s'est toujours imposé depuis 2012 comme le représentant des Kurdes syriens. Or, il y a toute une diversité politique des Kurdes syriens. Et cela va à des mouvances qui peuvent être islamistes, jusqu'à des mouvances que l'on pourrait appeler de la droite conservatrice kurde, qui n'empêche pas d'ailleurs une défense de l'identité kurde pour l'ensemble de ses composantes. Mais le PYD, lui, s'était imposé comme cette parole-là.
Avec une structuration politique très efficace, ou une très forte culture militante au sein du PYD qui lui a permis de prendre cette place-là.
Exactement. C'est en fait la force du PYD, c'est d'avoir bénéficié de l'expérience du PKK. C'est-à-dire d'avoir une base militante extrêmement active, coordonnée, organisée, avec une structure intellectuelle et idéologique très claire. Ce qui lui a donné la possibilité très rapidement de s'imposer politiquement. Or, on voit bien, ce logiciel-là a fini par s'écrouler ces dernières semaines, et le PYD a immédiatement basculé sur un discours d'authentification d'une sorte de mobilisation kurde transnationale, et le drapeau kurde national, qui est d'ailleurs le drapeau kurde utilisé par l'administration autonome du Kurdistan irakien, est devenu un symbole de ralliement. On l'a vu être dressé sur les places publiques, sur des ronds-points, etc. Donc on voit le PYD dans une difficulté politique et qui se transforme très rapidement en un porte-étendard. C'est un peu tardif comme transformation.
Un porte-étendard au sens propre comme figuré. Donc, et Cédric Labrousse, il existe aujourd'hui sur la scène politique kurde de Syrie un autre parti, le Conseil National Kurde, le CNK, qui est lui aussi autonomiste. Comment il a évolué ce parti ces derniers mois et sa base militante? Est-ce qu'il pourrait obtenir un partage du pouvoir dans certaines municipalités kurdes? En tout cas, est-ce qu'il le cherche?
Alors le CNK n'est pas tant un parti qu'une coalition de partis. Le CNK, si vous voulez, il est apparu en 2011, dans la vague révolutionnaire qui secouait la Syrie, et il s'est organisé par une coalition de partis politiques qui sont parfois beaucoup plus anciens que le PYD. Il y a par exemple le PDKS, le Parti démocratique du Kurdistan syrien, qui est une extension du PDK, qui est le parti du clan Barzani au Kurdistan irakien. Vous voyez comment les enjeux régionaux peuvent avoir un impact sur la scène politique syrienne. Et donc cette coalition de partis, le Conseil national des Kurdes syriens, le Conseil national kurde, a été longtemps réprimé par le PYD, qui ne voulait pas en fait d'une voix rivale, adverse et d'une liberté politique pour ses opposants. Cela a culminé en 2013 avec une répression dans une ville du nord kurde qu'on appelle Hamoudé, où on a eu six morts militants de partis rivaux du PYD.
Mazloumadi l'a reconnu d'ailleurs.
Donc on voit que ça a pu jusqu'à la violence.
Mazloumadi
avait présenté ses excuses. Voilà, exactement. Mazloumadi avait présenté ses excuses en 2020, reconnaissant de fait une responsabilité. Le CNK a donc une grande difficulté à s'implanter, une grande difficulté à s'implanter dans le nord-est syrien parce qu'on ne lui laissait pas le PYD, hein, quand je dis on ne lui laissait pas en réalité la possibilité de le faire. Donc, il pouvait ouvrir un bureau politique, mais très rapidement, on lui faisait comprendre qu'il fallait le fermer. Ses militants voulaient s'exprimer en public, mais on leur disait finalement, les distributions de tracts, c'est interdit. Donc, ça a été très compliqué d'exister pour l'opposition kurde syrienne au sein des bastions du PYD. Il y a eu ces derniers mois des tentatives, et même ces dernières années, mais ces derniers mois notamment l'initiative de Mazloumadi, de remettre le PYD et le CNK à la même table et de pouvoir discuter et d'avoir une plateforme commune pour négocier avec Damas. Ça n'a jamais fonctionné, le PYD n'a jamais donné réellement cette parole-là. Au grand désespoir par ailleurs de Mazloumadi. Donc, et on revient sur ces notions de nuance au sein du PYD. Et donc, si vous voulez, le CNK aujourd'hui, par contre, sans l'opportunité politique d'exister. Et comme c'était rappelé par les intervenants de l'émission, il y a chez Ahmad al-Shara la volonté de jouer aussi les divisions. Il faut être très clair. Et donc, donner davantage de parole à l'avenir, et ce sera quelque chose à suivre, à cette coalition kurde-syrienne, également autonomiste, comme vous l'avez rappelé, ça va être la possibilité de démontrer d'une, la diversité politique des Kurdes syriens, mais dans le même temps, de favoriser encore davantage un affaiblissement du pays. Et donc le CNK a une porte ouverte à une existence politique un peu plus libre. Je tiens à préciser que dans la région de Afrin, qui a été nommée au cours de votre émission, qui a notamment été victime d'une invasion turque avec des exactions considérables en 2018 et une expulsion de la population kurde régionale, trois représentants ont été récemment élus dans cette région dans le cadre d'élections législatives peuvent être critiqués au demeurant dans leur forme et dans leur fond. Trois représentants étaient élus, et ces trois représentants élus à la région d'Afrin en 2025 étaient tous proches ou membres du CNK. Donc vous voyez que Ahmad al-Shara est déjà en train de légitimer le CNK de fait et d'en faire un partenaire potentiel à l'avenir.
Merci. Donc,
est-ce que l'on va assister à une renaissance de la diversité politique kurde dans les mois à venir? C'est tout le sujet.
Et les représentants d'ailleurs du CNK ont été reçus fin janvier successivement par Mazloumadi, le chef des forces démocratiques syriennes, puis par Ahmad al-Shara. Je vous remercie beaucoup Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS, pour toutes ces précisions. Peut-être Iris Lambert pour parler et conclure sur la grande diversité qu'il existe au sein des Kurdes de Syrie et pas seulement d'un point de vue politique. On ne parle pas que en termes de partis. Qui sont ceux aujourd'hui qui, parmi les Kurdes de Syrie, et pour quelles raisons, pensent que pour leur avenir, l'avenir de leurs enfants aussi, il est de toute façon nécessaire de s'intégrer dans cet État central, en quelques mots?
Oui, mais dans la continuité de ce qui vient d'être dit, finalement, ce qu'on observe aujourd'hui, mais du fait de l'affaiblissement des partis kurdes face à Damas, c'est quand même un alignement de tous les partis kurdes à la table des négociations. Enfin, ça date d'avril dernier, une conférence pan-kurde qui a aligné tous ces anciens partis d'opposition avec le PYD. Donc voilà, la méfiance, c'est celle que je mentionnais un peu plus tôt de vis-à-vis de la possibilité d'une rupture des accords. Ceci étant, le projet n'a jamais été séparatiste. Depuis le début, il a toujours été question de s'intégrer d'une manière ou d'une autre, plus ou moins décentralisée, à l'État central de Damas, puisque les Kurdes syriens se considèrent comme syriens.
Et dans certains milieux kurdes, en effet, la question de l'autonomie était secondaire. Certains préférant que leur enfant apprenne l'arabe pour se donner davantage de chances plus tard de trouver du travail notamment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première émission de notre série sur les Kurdes. Iris Lambert, doctorante aux séries de Sciences Po, journaliste indépendante, vous étiez avec nous en direct depuis Erbil en Irak. Et merci beaucoup Gilles Doron-Soro. Je rappelle le titre du livre que vous avez dirigé aux éditions Kartala, Le gouvernement des Kurdes, gouvernement partisan et ordres sociaux alternatifs. Merci beaucoup.
Merci.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Ce matin, dans l'est de la République démocratique du Congo, Catherine, plus de 200 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une mine.
Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes, annonce actualité.cd sur l'immense site minier de Roubaïa, qui approvisionne une grande partie du monde en coltan, ce minerai utilisé pour fabriquer des portables notamment. Les collines verdoyantes du Nord Kivu ont été scarifiées, éventrées depuis une vingtaine d'années pour laisser place à des bandes de terre ocre et blanche, tout un réseau de puits et de tunnels creusés à la main, précise Channel 4 News, sur plusieurs dizaines de kilomètres non loin de Goma. En pleine saison des pluies, le sol devient particulièrement fragile, note actualité.cd. À cause des pluies et de l'éboulement qui a suivi, certains ont été emportés par le glissement de terrain. D'autres sont morts dans les puits. Beaucoup sont encore piégés à l'intérieur, explique Franck, un mineur rescapé dans une vidéo relayée par la BBC. Tandis que la Libre Belgique fait voir des blessés à la peau encore blanchie par le coltan, ils sont soignés sur des lits de fortune. 15 à 30% du coltan mondial provient de la cité minière de Roubaïa, contrôlée aujourd'hui par les rebelles du M23, rappelle la BBC, et les autorités à Kinshasa accusent aujourd'hui le groupe armé, mais aussi son parrain rwandais, de tirer profit de l'exploitation du coltan avec jusqu'à 125 tonnes extraites par mois. Une véritable économie de guerre, un système de pillage structuré vers le Rwanda, dénoncent les autorités de RDC, citées par Radio Okapi, actualité.cd et la BBC. Le gouvernement congolais dénonce aussi les défaillances des mécanismes internationaux de traçabilité, ainsi que la responsabilité des acteurs économiques qui continuent d'acheter ces minerais malgré les alertes régulières. De nombreux effondrements de mines se sont produits en RDC, y compris dans des zones contrôlées par le gouvernement, tempère la BBC. À chaque fois, les conditions de travail sont déplorables. Pas d'équipement de sécurité pour les mineurs qui s'enfoncent dans des puits étroits où la chaleur est insupportable, souligne la BBC et Channel 4 News, qui ont pu se rendre à Roubaïa ces derniers mois sous escorte du groupe rebelle M23. 10 000 personnes travaillent dans cette cité minière pour des journées de travail de plus de 12 heures et un salaire de moins de 5 dollars. Certains sont encadrés par Germain, un ancien mineur de 22 ans, à qui la chaîne télévisée britannique Channel 4 News a confié une caméra sous terre. Nous sommes à environ 60-70 mètres de profondeur. Seuls des jeunes travaillent ici. De jeunes travailleurs acharnés, raconte Germain, au fond de la mine où règne l'obscurité. Il n'y a même pas d'alcool, maugré un mineur d'une voix rauque comme hébété. Allez, on boira un coup après quand on aura fini le travail, lui répond Germain. Et met un peu de musique, l'encourage-t-il, avant de nouveaux coups de pioche dans le sol meuble, comme le montre ce reportage télévisé de Channel 4 News. Les mineurs de Roubaïa remplissent des sacs de terre riches en coltan, minerais noirs, brun rouge, stratégique donc pour l'industrie électronique qui devient visible une fois remontée à la surface lorsque la terre est lavée dans des bassines, explique Channel 4 News. De ce coltan est extrait le tantale, un métal qui résiste à la chaleur et qui est donc très recherché dans l'électronique. Alors que la population congolaise du Kivu continue, elle, de vivre dans la pauvreté en contrôlant la mine de Roubaïa, les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, sont devenus des acteurs majeurs d'une chaîne d'approvisionnement mondiale très lucrative, souligne Channel 4 News. Les taxes imposées sur la mine généreraient un revenu de 800 000 dollars par mois. Tandis que la cité minière de Roubaïa vit aujourd'hui au rythme des deuils, écrit Radio Okapi, Kinshasa appelle la communauté internationale à mesurer l'ampleur de cette tragédie, les causes et les conséquences de la course aux minerais stratégiques. Et la BBC rappelle que ces minerais ont aussi profité à l'armée congolaise ou à d'autres groupes ces dernières années, y compris des entreprises chinoises, sans que les conditions de vie des civils ne s'améliorent.
Et pour la suite de votre revue de presse, Catherine, vous parlez du Japon qui dit avoir trouvé des terres rares lors d'une mission en eau profonde.
Dans des sédiments extraits à 6000 mètres de profondeur. Alors que le Japon cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de Pékin pour ses minerais stratégiques, il s'agit, selon Tokyo, de la première tentative mondiale visant à exploiter des terres rares dans des eaux d'une telle profondeur, indique le Japan Times après une mission du navire de recherche japonais Chikyu qui avait mis le cap mi-janvier vers l'île isolée de Minami Torishima dans le Pacifique. Alors, on attend encore les détails des analyses pour connaître la quantité exacte de terres rares contenues contenus dans cet échantillon. Mais les défenseurs de l'environnement s'inquiètent, eux, des dégâts causés par l'exploitation minière en mer sur les écosystèmes. C'est l'alerte lancée par l'Energy Industry Review. Si vous avez la moindre question sur l'actualité internationale, si vous souhaitez approfondir l'un des sujets de cette chronique, je vous rappelle l'adresse pour m'écrire fcrdpi@radiofrance.com. Un ou une spécialiste vous répondra dans la revue de presse interactive du samedi.
Merci Catherine Dutu.